With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yeah. Salut, c'est Juliette Katz, plus connue par certains et certaines sous le pseudo de Coucou les Girls. Mais je crois que je vais arrêter de dire tout le temps Coucou les Girls, parce que déjà en plus, je n'utilise plus ce pseudo. Et je crois que c'est bon, là, vous l'avez. Vous, si vous êtes présent depuis le début du podcast, vous savez qui je suis. J'ai pas besoin de dire mon prénom, mon deuxième prénom, mon troisième prénom, mon pseudonyme. La meuf a un melon, c'est insupportable. Bon bah bienvenue dans le podcast et bienvenue dans cette deuxième saison. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle ensemble de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors, qui dit nouvelle saison dit nouveauté. Et vous êtes en train d'expérimenter en même temps que moi la première, puisque en plus des épisodes classiques avec des invités, il y aura pendant cette deuxième saison des épisodes solo. Oui, depuis longtemps, j'ai envie de tester cet exercice-là, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entre-soi quand on fait du podcast. Donc au début, je me disais « Ah, oh, Juju, arrête, là, syndrome, machin, bon, on connaît. » Et à un moment, je me suis dit « Bon, finalement, j'ai des choses à raconter et j'ai besoin de vous les partager. » Voilà. Donc aujourd'hui, on expérimente ce premier exercice. C'est un peu étonnant pour moi parce que là, je suis présentement dans ma salle à manger en pyjama avec les cheveux gras, on va pas se mytho, et je vais vous parler d'un sujet qui... hyper intime en fait. Je crois que tous les épisodes que je vais faire en solo sont des épisodes que j'ai du mal à expérimenter à plusieurs. Et c'est surtout des manières pour moi de pouvoir me libérer de ma parole et de peut-être de me sentir moins seule aussi sur certains trucs. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un petit peu mon rapport au féminin, à la féminité, à la sexualité, à ma sexualité, au rapport au corps. Donc, il n'y a rien qui est préparé. Hein. Je vais vous balancer plein de pensées comme ça. Si vous me suivez sur YouTube et sur Twitch, vous savez que je vais un peu dans tous les sens. Je pense que ça va être un peu pareil ici. J'ai envie de vous parler de ça parce que je sens que je ne suis pas à l'aise avec mon féminin. D'ailleurs, j'ai du mal à savoir ce que c'est la différence entre être féminine et le féminin. Vous voyez la nuance ? Et j'avais aussi envie de vous parler de mon rapport à la sensualité, à la drague. Voilà, donc en fait, pour vous remettre un petit peu in situ, comme on dit, depuis toujours, hein, j'ai toujours été un peu mal à l'aise quand il s'agissait de séduire, de draguer, d'être un petit peu aguicheuse, tout ça, parce que j'avais l'impression que je faisais mal, en fait, et que j'étais ridicule. J'avais l'impression que j'allais me prendre des vents tout le temps, et que du coup, bah, je faisais pas, vu que j'avais cette impression et cette peur qu'on me dise « Ah, t'es nulle, ah, t'es moche, ah, t'es grosse, il y a des meufs qui sont quand même vachement mieux que toi. » Donc, je faisais pas, et je me taisais un peu dans cette envie-là. Et j'ai toujours été assez admirative des nanas, quand je dis toujours... En fait, je pense que ça remonte dès l'adolescence, hein, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles et à être dans l'interaction avec les hommes, quoi. Et même les femmes, parce que j'ai eu aussi une expérience... Bon, là n'est pas le sujet. Voilà, j'ai toujours été dans de l'admiration de ces personnes, et plutôt de ces femmes, qui sont à l'aise avec leur corps, qui sont à l'aise avec leur féminin, leur sensualité, qui sont très à l'aise à l'idée d'aller séduire l'autre. Et moi, j'étais toujours genre, waouh, ouais, putain, franchement... Je l'ai trouvé hyper libre, en fait, dans cette proposition-là, quoi. En fait, est-ce qu'il faut que je vous raconte ce petit passage-là ? Peut-être qu'il faut que je raconte ça, parce que ça a dû jouer, en fait, dans ma réflexion. Quand j'étais ado, du coup, je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans, à peu près, 12, 13 ans, un truc comme ça. Et il y avait 90 nanas pour 10 mecs, à peu près. et je me suis tapé entre guillemets trois mecs. Alors j'avais pas couché encore de ma vie, donc quand je dis que je m'étais tapé, c'était j'avais embrassé, flirté, fait des trucs avec des mecs là-bas. Et très vite on m'a connoté comme un peu la salope, comme un peu la pute. C'est violent comme mot, mais c'est comme ça qu'on m'appelait. Donc c'était hyper dur parce que moi j'avais pas du tout l'impression d'être ça, mais plutôt d'être déjà à l'époque, en fait, j'avais c'est ça aussi. Ah oh, putain, désolé, c'est hyper flou, hein, mais bon, c'est le but des épisodes solo, c'est vraiment de vous parler comme si vous étiez mes psys. J'avais déjà l'impression de pas être à la hauteur et que j'avais de la chance qu'un homme s'intéresse à moi. Déjà, hein, dès adolescente. Ce truc-là m'a suivi toute ma life, mais j'en reviendrai certainement plus tard. Ou pas. Et donc, quand j'étais dans ce centre pour maigrir, voilà, je suis sortie avec deux garçons, vraiment, mais j'ai embrassé trois garçons. Et je me souviens que une fois, putain, je vais vraiment vous parler d'un truc intime, mais je pense que c'est intéressant, en fait, pour la suite. Je sortais avec un certain Cédric. Et à un moment, il a décidé de mettre sa main dans ma culotte. Moi, j'étais OK. Franchement, j'ai dit, vas-y, frère, fais-toi plaise. Et c'est la première fois qu'on me faisait ça. Hein. Je pense que j'avais peut-être... Enfin non, c'était pas la première fois. Mais c'était la première fois que c'était OK pour moi. Nuance. Je pense que, ouais, j'avais 13, 14 ans. Donc, il met sa main dans ma culotte et il la ressort et il me dit « Ah, mais tu pues ! Ah, mais c'est dégueulasse ! Mais tu te laves pas !» Et je me suis sentie vraiment... En plus, on était, tu sais, cachés dans le centre, debout, dans une cour, enfin, tu sais, un peu à l'abri du regard des gens, dans un truc un peu... c'est notre moment d'intimité. Et le mec, il me dit « Ah, tu pues de la teuche ! » Et moi, j'étais genre « Quoi ?» Quoi, je me suis sentie humiliée de ouf. Vraiment, je me suis sentie extrêmement humiliée. Et depuis, laissez-moi vous dire que j'ai été traumatisée par ça, parce que j'ai laissé très peu d'hommes, en fait, par la suite, aller en bas avec leur bouche. Je ne vous fais pas sans dessin, parce que j'avais tout le temps peur qu'on me dise que je pue. Et en fait, bah, je pense que je puais pas, et peut-être que je puais. Enfin, whatever, tu vois, juste, on traite bien les gens. Donc, ça a été un peu un point de départ pour moi à ce moment-là. Et puis, quand je suis partie du centre pour maigrir, parce que je m'étais tapé trois mecs, j'étais, comme je vous l'avais dit, considérée un peu comme la salope et tout. Et je suis partie, il y a un taxi qui était venu me chercher pour m'amener à la gare. Et j'ai vu pratiquement toutes les meufs du centre me faire des doigts d'honneur. Ils me diraient, hey, salope, salope. Et je suis partie comme ça. Et je me suis sentie humiliée, je me suis sentie salie, détestée, pas aimée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un truc pareil, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Après, peut-être que si, là, je retrouvais des personnes de ce centre qui ont pu faire ça, peut-être qu'elles auraient un autre discours, hein, et ce serait intéressant. Mais en tout cas, de mon point de vue, ça a été hyper difficile. Et si je vous parle de ça, c'est parce que par la suite, en fait, je crois que ça a été vraiment un point marquant. Et puis, je pense qu'il y a eu même d'autres points marquants quand j'étais plus jeune, mais vraiment, vraiment bien plus jeune, même genre la primaire, tu vois, où je me comparais beaucoup, en fait, où j'avais l'impression que quand mes copines, elles avaient des copains, des petits copains, bah, c'était toujours... on venait pas vers moi, quoi, tu vois, on venait pas vers moi et tout. Enfin, bref. Et quand j'ai grandi un petit peu et que j'ai été... dans le désir de... Ouais, non, mais en fait, il faut que je vous parle de ça. Putain, je suis obligée de vous parler de ça pour la suite, parce que si je vous en parle pas, ça n'a pas de logique, en fait. Quand j'étais dans ce centre pour maigrir, à un moment, je suis partie en vacances. Je suis partie au Sénégal avec mon père et une copine du centre. Et j'ai rencontré un mec au Sénégal qui était dans l'hôtel à côté du mien. Et en fait, ce mec, pour la première fois de ma vie, donc là, c'était la première fois, en fait, me touchait en bas et me mettait des doigts et tout ça. Et moi, j'avais mal. Et je lui disais, aïe, j'ai mal, ça me fait mal. Et le mec continuait. Et donc, moi, j'ai cru... Et donc, bref, je rentre dans ma chambre d'hôtel et puis je vois que j'ai du sang dans ma culotte et que, en fait, bah, j'ai été dépucelée, en fait, hein, très clairement. Et j'ai réalisé des années après, vraiment des années après, qu'en fait, ça a été un viol parce que je disais stop, je disais aïe, je disais arrête, et que qu'il ne m'a pas entendu. Mais en fait, à ce moment-là, je me disais, mais c'est quand j'étais ado, hein, et quand il s'est passé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est de ma faute, c'est moi qui ne l'ai dit pas assez fort. Peut-être qu'il ne m'a pas entendu. Donc, je me trouvais un peu des excuses et tout ça. Enfin, bref. Je vous raconte tout ça. Voilà, j'en viens un peu au cœur du sujet, qui est ce truc, du coup, du féminin, de la séduction, de la drague, du rapport au corps. Où déjà, en vous partageant ces deux petites expériences-là, quand tu es adolescente, bah, en vrai, ça traumatise un peu. Enfin, moi, ça m'a choquée, ça m'a marquée. Et j'ai eu du mal pendant des années à m'autoriser, en fait. S'en est suivi pendant de nombreuses années... une quête de vouloir plaire aux hommes. Et surtout, pour vous parler un peu de sexualité, donc moi, je me suis fait dépuceler en ayant subi un viol. que j'ai nommé plus tard comme ça, bon, mais j'avais 14 ans et la première fois que j'ai fait l'amour, j'en avais 15, je crois, ou 16. Et vu qu'on m'avait tellement raconté que la première fois que tu fais l'amour, ça fait mal, j'ai été dans un désir d'avoir mal. C'est chelou, hein, dit comme ça, mais vu que je voulais pas croire, en fait, que je m'étais fait dépuceler par des doigts, je cherchais à avoir mal. Et en fait, les premiers mecs avec qui j'ai fait l'amour, je dirais les trois premiers mecs, en fait, j'étais déçue parce que j'avais jamais mal. Et je me disais, mais merde, en fait, j'ai vraiment été dépucelée comme ça, quoi. Donc, ça a été déjà un peu un petit truc où j'étais genre... un peu déçue d'un truc, quoi. Et après, j'ai passé, je crois, sans vous mentir, de mes... Je réfléchis parce que j'ai eu des relations longues et tout entre-temps, mais je dirais de mes 19 ans à mes... peut-être pendant 5-6 ans, à être beaucoup la maîtresse, donc à être beaucoup la nana, le plan cul, la nana qu'on appelle uniquement pour coucher. Et moi, c'était pas du tout ce que je désirais. Moi, je désirais qu'on m'aime, je désirais qu'on soit avec moi. Et du coup, je m'étais persuadée, ça me fait sourire maintenant avec le recul parce que c'est pas possible, enfin, je crois pas, j'étais persuadée qu'en donnant tout dans le cul, on allait tomber amoureux de moi. Spoiler, ça n'arrive jamais, j'en ai déjà parlé rapidement dans le dernier épisode de la première saison avec mon mec Yves. Et donc j'étais vraiment dans ce désir de me dire que si je me donne au lit, on va m'aimer. Et du coup ça ne marchait jamais, ça ne fonctionnait pas du tout. Et ce qui a été très compliqué pendant toute cette période-là, c'est que moi je n'existais pas. En fait, ma notion du désir, du plaisir, je l'avais complètement mise de côté. Et j'étais complètement au service de l'autre, en fait. J'étais au service de l'homme, en fait. Je m'étais mise dans cette position, dans cette posture-là, d'être un peu un objet, en fait, très clairement. Mais c'était pas conscient, hein. C'était absolument pas conscient. C'est ce que je relate maintenant avec quelques années de recul. Et ce qui était très, 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 très compliqué, c'est que je n'allais jamais draguer et séduire. Parce que les fois où j'ai pu le faire, je me sentais, moi, mais d'un ridicule. Et j'ai pu me prendre 2-3 vents parce que, bah, je sais pas, je sortais et puis j'allais vers un mec avec qui j'avais l'habitude de coucher. J'allais le voir en lui disant, hey, j'ai envie de toi, machin et tout. Et le mec me disait, non, mais là, j'ai pas envie, il y a une autre meuf. Et du coup, très vite, moi, je me sentais trop mal. Donc, les petites fois où j'ai été dans de la séduction, où j'ai été dans la drague et dans un truc de je fais le premier pas pour te montrer que j'ai du désir pour Watt et qu'on me dit non, bah, moi, en fait, ça m'a un peu marqué pour la suite, quoi. Podcast. Pendant toute cette période-là, je n'existais pas. Je ne sais pas comment le relater maintenant, mais je m'apprêtais de ouf, je me maquillais pas mal, je mettais des sous-vêtements, dentelles, sexy et tout. Et je me disais vraiment, en donnant tout là-dedans, bah, peut-être qu'on va m'aimer. Bon. Et au-delà de ça, il y avait un truc où, en fait, même si je faisais l'effort de me maquiller et de m'apprêter, je n'arrivais pas à séduire. Parce qu'en fait, j'ai cru pendant longtemps, je pense que ça s'est tiré des films, de ce que j'ai pu voir aussi dans la vie, j'ai cru que pendant longtemps, séduire, draguer, c'est vraiment aller voir quelqu'un et dire « Salut, j'ai hyper envie de toi, oh, viens, on va faire l'amour ». Et c'est pas forcément ça, mais j'ai cru qu'il fallait faire ça pendant des années. Et du coup, je me sentais ridicule. Je me souviens, j'ai eu une relation de quelques mois avec un mec, on n'était pas en couple, mais on se voyait très souvent. Et à un moment, il vient chez moi. Et je lui dis, vas-y, quand tu montes dans l'ascenseur, bah, quand je t'ouvre, je veux que tu sois en boxer. Et il me dit, ok, vas-y, bah, alors toi aussi. Et je me dis, ok, vas-y, viens, c'est un peu excitant et tout. Donc là, je me mets en porte-jartel, body, talon. Je commence à m'exciter toute seule, à me regarder dans le miroir, à poser. Tu sais, à me dire, ah ouais, là, c'est une bonne pose. Là, je vais être hyper sexy et tout. Et j'ouvre la porte. J'entends l'ascenseur qui monte, je me positionne, tu sais, mes mains en bas à gauche sur la porte, en haut à droite sur l'autre coin de la porte, un peu genre bonsoir. Et au moment où il est arrivé, au moment où je l'ai vu, j'ai retiré mes mains. Je me suis mis dans une posture de petite fille et j'ai dit, je peux retirer mes talons ? Donc pas du tout, pas du tout dans un truc de séduction, parce que je me sentais ridicule. Donc je m'interdisais complètement de montrer ça de moi. Et pourtant le mec, lui est arrivé en boxer avec des Timberland, j'étais genre oh waouh, il est trop sexy. Et moi, je suis en porte-jartel avec un body avec des talons, avec une posture, tu sais, où presque genre j'ai mes doigts, tu sais, qui se touchent un peu, genre je peux retirer mes talons parce que ça me fait un petit peu mal, presque à parler comme ça, quoi. En fait, ça a été un peu récurrent, pas forcément cet exemple-là, mais ça a été récurrent, ce truc où je m'apprêtais, mais j'étais incapable d'être dans ce truc de premier pas, de meuf qui aguiche, quoi, enfin, qui séduit, qui drague. Je m'en sentais pas du tout capable. Et je vais même vous dire que, en fait, je m'en sens toujours pas capable. Maintenant, ça fait 6 ans que je suis avec mon mec, avec Yves, pour celles et ceux qui ont écouté cet épisode, et je suis toujours pas capable de faire ça. Alors après, mon mec, il s'en fout de ça, des tenues sexy et tout, des porte-jartelles, la dentelle, il n'est pas du tout sensible à ce truc-là, mais je n'arrive pas. C'est-à-dire que là, pour parler d'un truc encore plus intime, sans vous parler de notre relation, de nos relations sexuelles avec mon mec, je vois que je n'arrive pas à être sexuelle, en fait. Quand mon mec, ou quand d'autres mecs avant, hein, venaient, tu sais, un peu le moment où on se chauffe et tout, genre, ah, j'ai trop envie de toi, vas-y, machin, déshabille-toi, ah, tu me donnes envie de ça et tout. Et en fait, moi, je ne dis rien, je ne parle pas, je sais pas quoi faire. Je me sens genre trop mal à l'aise. Je suis hyper mal à l'aise. Et pourtant, je peux avoir du désir, hein, mais je me sens genre, eh, mais c'est pas que pas chaque chou, quoi. Tu vois, je suis pas à l'aise. Et je pense qu'en fait, c'est pas que je suis pas à l'aise avec mon corps, parce que je crois que mon corps et mon poids n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pour ça que je vous parle du féminin, tu vois, du sexe, genre de ma vulve, en fait, tu vois. Je crois qu'il y a un truc où je suis pas à l'aise, en fait, avec la perception, peut-être aussi, que j'ai, la vision que je me suis faite de la femme, quoi. De la femme séductrice, libre, indépendante, un peu genre, tu sais, voilà, c'est ça, en fait. Je pense que j'avais vraiment je me fais, tu sais, j'ai envie de me prendre dans les bras il y a 10 ans, parce que j'avais vraiment cette image de la femme, une genre de Monica Bellucci sur des talons, qui est un peu, qui décide et qui a un peu les hommes à ses pieds. Moi, je croyais que c'était ça, être femme. J'ai cru pendant longtemps que c'était ça, être une femme. Et donc, je me disais, il faut que je fasse ça avec les mecs avec qui je sors ou avec qui je couche. Mais j'étais incapable d'être dans cette posture-là, quoi. Et je pense qu'en plus, Monica Bellucci n'est pas fondamentalement comme ça. Elle est comme ça parce que c'est un rôle qu'on lui a prêté et elle le joue, voilà, bon. Et d'ailleurs, je pense à un autre truc, mais c'est vrai que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai posté beaucoup de photos de moi nues, où je me mets un peu en valeur, en lumière, où je sais poser. Bon, après, ça a été aussi mon métier d'être mannequin. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas du tout de mal, en fait, à jouer un rôle, parce que je suis juste dans le regard du photographe et c'est vraiment juste de l'image, tu vois, que je projette. Et du coup, c'est pas difficile pour moi de rentrer dans ce personnage-là. Alors que quand il s'agit d'être dans la séduction avec quelqu'un en vrai, genre, il n'y a plus personne. Même pour dire à un mec, j'ai envie de toi, genre, j'ai envie qu'on fasse l'amour, je suis excitée par toi, je ne sais pas le dire autrement que par message. Enfin, tu vois, je n'assume pas ce truc, cette part en moi de féminin. Alors, je sais pas si c'est du féminin, d'ailleurs, peut-être que c'est pas du tout le bon mot, mais je n'assume pas du tout cette manière d'être... ouais, d'être dans la séduction. J'assume pas du tout cette part de séduction que j'ai en moi, mais qui est cachée, quoi. Et c'est compliqué parce que, encore maintenant, c'est ça que je vous disais, c'est que même maintenant, où je suis, voilà, ça fait 6 ans que je suis avec mon mec, quand il s'agit d'aller vers lui pour lui dire que j'ai envie de lui, en vrai, je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai peur. J'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'être mal à l'aise, j'ai peur qu'il me juge, qu'il me foute des vents. Alors que, pardon, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on a un enfant, on s'aime, il me désire. Donc, il n'y a pas de raison. Mais j'ai peur de me sentir rejetée, en fait, fondamentalement, quoi. Et ce que je vous livre là est intimement intime, parce que j'en parle très peu, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme moi. Je pense qu'en fait, en écoutant cet épisode, peut-être que vous allez vous dire « Putain, mais je suis pareil, meuf! Viens, on va boire un café, on en parle !» Peut-être. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, ne pas être la seule, parce que très souvent, quand j'ai pu en parler à des potes ou à des tables rondes ou à des trucs... j'ai l'impression que je suis un peu genre, tu sais, out of the box, tu vois. Quand je vous ai dit en début d'épisode que j'avais envie de vous parler du rapport au corps, c'est pas le poids, c'est vraiment moi qui suis incarnée, tu sais, genre ma personne. Je sais pas faire, et même dans le cul, hein, dans la baise, d'aussi loin que je m'en souvienne, je n'arrive pas à me lâcher, en fait. Je ne sais pas me lâcher. Je sais pas faire. J'ai eu que 2 orgasmes dans ma vie, par exemple. Et pourtant, j'en ai vu des teubasses. Waouh, putain, vraiment, beau Flandre. Non, mais j'ai couché avec plein de mecs et avec quelques nanas aussi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'arrive à jouir seule. Mais avoir des orgasmes, tu sais, ce sentiment où t'as l'impression que tu planes, tu sais, genre, oh, t'es en train de voler. Je l'ai eu deux fois. Ça me fait sourire parce que les deux fois où je l'ai eu, vraiment, j'étais genre, oh, oh, tu sais, vraiment ce truc où tu t'envoles, où t'as de la chaleur qui arrive de tes pieds jusqu'à la tête. Moi, je l'ai eu que deux fois. Et quand ça, j'en parle à mes potes, la majorité des meufs me disent « Ah bon, t'as eu que deux orgasmes ? Mais moi, si j'ai pas un orgasme à chaque fois que je ken, eh ben, c'est pas la peine. » Et donc, tu sais, moi, je me sens genre « Ah bon ? Ah ouais, merde !» Et c'est parce qu'en fait, je ne sais pas lâcher prise. Je sais pas faire. Et je me souviens que la première fois où j'ai réussi à me lâcher un peu, j'étais dans une relation, c'était mi mon plan cul, mi mon mec, on savait pas trop ce qu'on voulait, enfin ce que lui voulait, parce que moi j'avais toujours très envie d'être en couple, hein, avec n'importe qui, visiblement, mais j'étais dans un truc où ce mec, alors je ne fais pas du tout l'apologie de ça, parce que je n'en fume pas du tout, lui fumait des joints. Et en fait, quand j'arrivais chez lui, tu sais, un peu socialement et parce que j'avais envie d'être un peu poli, je lui disais, je peux tirer une latte. Alors je tirais une latte, j'étais défoncée, mais il suffisait de une latte sur un joint pour me lâcher un peu. Et je me souviens très bien que ce mec, qui en plus n'était pas du tout dans mes critères de beauté, je le trouvais pas spécialement hyper charmant, son corps me plaisait pas forcément, mais il avait un truc où dès qu'il me touchait, mais vraiment, quand je vous dis qu'il me touchait, c'est à peine il effleurait mon bras, que j'étais genre waouh, j'avais les frissons. Et en fait, je me lâchais un peu plus. Et voilà, et en fait, c'est flou parce que je vous parle du féminin, de la sexualité, du rapport au corps. Moi, j'ai aussi vachement, beaucoup, beaucoup longtemps simulé. Parce que c'est pas que je prenais pas de plaisir, mais j'en faisais trop. Parce que je me disais, les mecs vont être flattés, donc ils vont sortir avec moi. N'importe quoi. Donc, en fait, mon désir, mon plaisir n'existait vraiment pas, quoi. Et je crois que ce mec-là a été le premier qui a mis le doigt sur quelque chose, c'est le cas de le dire, sur un truc où j'ai réussi à me lâcher et à me dire que je pouvais plaire, malgré mes quelques kilos en trop, parce que j'étais moins grosse que maintenant. Déjà, à l'époque, tu vois, je me disais, ah bah, quand t'es grosse, tu peux pas plaire. Vraiment, spoiler, non, c'est faux, c'est complètement faux. Enfin, pas spoiler, mais plutôt breaking news, c'est complètement faux. Mais j'ai cru aussi pendant très longtemps, certainement un peu par ma maman, inconsciemment, par mon frère, parce que j'ai pu voir dans les magazines, à la télé, que quand tu es un petit peu hors de la norme, eh bien, c'est plus compliqué d'être désirable et être désiré. Et puis après, j'ai longtemps cru aussi que je pouvais plaire uniquement que par le cul, et que du coup, les mecs ne voulaient pas sortir avec moi parce que j'étais grosse, mais que par contre, ils voulaient bien coucher avec moi. Enfin, tu vois, ça a toujours été un peu compliqué, quoi. Ça fait du bien de parler de tout ça. Ça fait du bien de le sortir parce que la seule personne à qui je parle de ça, c'est à ma psy. Vraiment, je peux en parler à ma meilleure pote de temps en temps et à des amis, mais sans rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que j'ai un vrai sentiment de... C'est pas de légitimité, je dirais pas ça, mais j'ai un sentiment où, tu sais, je me sens comme une petite fille, quoi. Comme une petite fille qui a pas le droit, qui fait une bêtise. Alors, ça, c'est du pain béni pour ma psy, hein, parce que quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que je faisais des bêtises, elle me dit, ah, comment ça ? Continuez ! C'est du pain béni. Moi, j'ai pas encore tout à fait compris pourquoi, mais je suis en cours de... en phase de compréhension, on va dire. J'ai toujours eu ce sentiment de faire une bêtise si je suis dans la séduction, de faire une bêtise si je me lâche au pieu. Voilà, c'est con, c'est bizarre, mais vraiment l'exemple dont je vous ai parlé un peu plus tôt, de ce truc où je me mets en porte-jartel et je me dis « Ouais, je vais l'accueillir comme ça », et que quand le mec arrive, je lui dis juste « Je peux enlever mes talons ?» Enfin, c'est quand même très représentatif de ce qui se passe à l'intérieur de mon cerveau. Donc, il n'y a pas vraiment de conclusion à cet épisode, juste peut-être que vous êtes pareil, peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est important aussi, je trouve, de libérer cette parole-là, enfin en tout cas de libérer la mienne, parce que c'est un truc qui me pèse un petit peu, où je me sens... Et pourtant, je vais vous dire, pardon, c'est fou, la meuf, elle est en monologue, fallait pas que je me lance à faire des épisodes solo, on est mal barrés les gars, hein. Vraiment, ce podcast va devenir que des épisodes solo ? Non, c'est pas le but. ce que je veux dire, c'est que je sais que je suis plutôt mimi, tu vois, que je suis jolie. Enfin, on me le dit depuis que je suis gamine, tu vois. Enfin, on me dit depuis que je suis gamine que j'ai un beau visage. Donc, on m'a quand même très tôt coupé de mon corps. On m'a beaucoup dit que j'avais un beau visage. Mais je sais que je peux être jolie, que les garçons peuvent me trouver belle, même les femmes peuvent me trouver belle. Mais pour moi, la beauté et la séduction, ça n'a strictement rien à voir. Mais putain, du coup, je pense à plein de souvenirs. Je me souviens qu'à un moment, j'étais à New York il y a des années. Je suis partie faire mon album, parce que j'étais chanteuse avant. Je suis partie faire une partie de mon album là-bas. Et à un moment, je vais à Brooklyn, je vais dans un bar à vin alors que je ne bois pas de vin. Et je vois une meuf chanter qui a la voix de Tina Turner. Et je la vois vraiment, tu sais, un peu genre... un peu ce truc-là, où je suis tombée in love de cette meuf. Je l'ai trouvée extrêmement belle, hyper powerful, enfin tu vois, un truc très libre, quoi. Et en fait, on commence à se chercher un petit peu. Elle parlait, enfin, elle est américaine. Moi, avec mon anglais, je faisais « Oh, I really like what you do tonight. You sing really good, hein, and you are beautiful too. » Enfin, tu vois, c'était absurde. Et on commence à se pécho. Et moi, j'avais jamais couché avec une meuf avant. Et là, c'est une expérience que je vis avec une meuf que je trouve extrêmement belle. Donc déjà, je me dis, quoi, d'où une personne aussi belle s'intéresse à moi? Ça a été un peu le truc de ma life, hein. Meuf ou mec, je me disais, quoi, ce mec, cette meuf s'intéresse à moi? Mais t'as vu comment il ou elle est beau? C'est pas possible. Bon, bref. Et je me souviens qu'avec cette meuf, donc on se chine, on a un peu... dans de la flirtouille et tout. Et au moment où elle me dit « You want to come to my home ?» je lui ai dit « J'ai mes règles. » C'était faux. Mais en fait, je n'ai pas su quoi faire. Je me suis retrouvée un peu paralysée. Autre anecdote, je me suis retrouvée il y a des années, à l'époque où je sortais, où j'étais jeune et frivole. Je suis sortie en boîte et je croise un humoriste très connu qui est entouré de meufs hyper bombasses. Et en fait, je vois qu'il me mate. Donc, je me sens à la fois hyper flattée et en même temps, je me dis, putain, mais peut-être que je vais coucher avec lui. Mais t'imagines, waouh, dans mon agenda de mec, j'aurais un mec hyper connu. Enfin, n'importe quoi. Et je me souviens qu'il me regardait beaucoup. Et quand je suis passée à côté de lui, je m'étais fait tout un truc en me disant « Ouais, je vais aller le regarder, je vais l'inviter genre par un signe de tête à me rejoindre aux toilettes. Écoute bien ce que j'ai fait. » Je suis passée à côté de lui et j'ai dit à mes potes « Bon, bah, je vais faire caca, je reviens. » Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que visiblement, j'estime que je ne mérite pas autre chose. Non, c'est pas ça. Parce que je ne sais pas faire. Parce que je ne sais pas être dans la séduction. Et ça me fait chier parce que bah, c'est pas un frein ou une plaie dans ma vie parce que je me porte très bien sans. Hein. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça parce que ça a été vraiment un truc qui a été très complexant. Ça ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça a été un peu chiant pour moi de pas savoir faire, de me sentir mal à l'aise à l'idée de séduire, à l'idée aussi d'être sexuelle en fait. Je pourrais parler de ça encore pendant des heures, mais en vrai, on va s'arrêter là parce que et puis en fait, j'ai pas de conclusion. C'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas de conclusion. Déjà, il y a déjà 10 minutes, je vous ai dit j'ai pas de conclusion. J'espère que cet épisode vous a plu. 10 minutes après, j'en suis encore là. Vraiment, bref. Voilà, c'est tout. Peut-être que je referai un épisode 2 ou qui sera peut-être un peu plus concis, je ne sais pas, sur justement ma notion du... Enfin, pas ma notion, mais de où est-ce que j'en suis maintenant. Bon, en fait, non, il n'y a même pas... Parce que vraiment, breaking news, j'en suis un peu au même niveau, même si je suis en couple et que j'aime mon mec et qu'il m'aime et tout ça, mais je sais pas faire, quoi. Je me sens pas à l'aise... Tu sais, j'ai l'impression d'être, de pas être à la bonne place. C'est trop chelou, c'est trop bizarre. Voilà, c'était assez intime hein, comme premier sujet en solo, mais j'avais envie de vous partager ça. Et d'ailleurs, sachez que les prochains épisodes en solo, on va aborder que des trucs qui me touchent en fait, qui sont intimes pour moi, à des échelles plus ou moins importantes, mais de choses qui me touchent, qui m'intéressent. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour bientôt. Je ne sais où, ici, sur Instagram, sur YouTube. Faites-moi des petits retours, savoir si ça vous plaît ce genre d'épisode solo. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Le podcast est là tous les mardis à partir de 5h du matin. Oui, nous pensons aux gens qui se lèvent tôt. On se retrouve du coup, même studio, même micro, la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.